From the conference center at
ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec des orateurs choisis parmi l'autorité générale et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette émission à la radio, à la télévision, par Internet ou satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mark Wilberg et Ryan Murphy. Avec Bonnie Goodliff à l'orgue, le chœur ouvrira ce service religieux en chantant In Hymns of Praise. Ensuite, Marlene K. Jensen des 70 fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite O Divine Redeemer.
Father in heaven.
Notre Père céleste, au début de cette dernière session de la conférence générale, nous te remercions pour ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Nous avons été bénis d'avoir pu entendre ta prédication, la belle musique, et d'avoir pu jouir de la présence de tes serviteurs et en particulier de ton prophète choisi. Nous avons le sentiment de pouvoir nous engager de nouveau et nous avons une foi accrue en toi et dans ton Fils Jésus-Christ. Au milieu de ces bénédictions, Père, nous pensons à ceux pour qui tout ne va pas bien. Et nous prions pour ceux qui sont malades, qui sont dans la pauvreté, qui ont été atteints par les calamités de ces jours passés dans les îles de la mer et ailleurs, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui se sont égarés, ont quitté le chemin. Nous te prions, en suivant les recommandations de nos prophètes, qu'ils puissent trouver le chemin, la manière de les aider, de les réconforter. Nous te demandons que tes bénédictions les accompagnent. Nous sommes impatients d'entendre ce qui va nous être dit dans la heure qui vient. Nous te demandons d'aider ceux qui vont parler ou chanter, que ton esprit soit avec eux et que nous puissions, à travers tout cela, voir notre foi en toi et dans ton Fils s'agrandir, s'accroître. Nous te remercions pour un Rédempteur et nous sommes reconnaissants pour l'exemple que sa vie nous donne et nous donnons ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Merci au Tabernacle.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey R. Holland.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Jeffrey R. Holland et Quentin L. Cook du Collège des Douze Apôtres. Après le discours de Frère Cook, nous entendrons Brent H. Nielsen, des 70.
To this choir.
Pour ce chœur, puissent-ils accepter les remerciements de tous ceux qui font partie de cette audience? Cette prière qui représente le sermon ultime de toute conférence de cette Église et le cri du cœur de chaque être humain. Maintenant, si je puis m'exprimer, je vais essayer de le faire. Les prophéties concernant les derniers jours mentionnent souvent des calamités à grande échelle, par exemple des tremblements de terre, des famines ou des inondations. Ces dernières peuvent alors entraîner des bouleversements économiques ou politiques de grande ampleur, d'un genre ou d'un autre. Mais il y a une sorte de destruction des derniers jours qui a toujours semblé plus personnelle que publique, plus individuelle que collective. Un avertissement qui est peut-être plus applicable à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Le Sauveur avertit que dans les derniers jours, même les personnes de l'Alliance, les élus même, pourraient être séduites par l'ennemi de la vérité. Si nous considérons cela comme une forme de destruction spirituelle, cela peut éclairer une autre prophétie concernant les derniers jours. Considérer le cœur comme le centre de notre foi, au sens figuré, le lieu poétique de nos loyautés, de nos valeurs. Puis penser à la déclaration de Jésus que, dans les derniers jours, le cœur des hommes leur manquerait. Ce qui est encourageant, bien sûr, c'est que notre Père Céleste connaît tous ces dangers des derniers jours, ces troubles du cœur et de l'âme, et qu'il a donné des recommandations et des protections pour les éviter. À la lumière de cela, il m'a toujours paru intéressant que le livre de Mormon, l'une des fortes pierres angulaires du Seigneur dans cette contre-offensive contre les maux des derniers jours, commence par une grande parabole sur la vie, une longue allégorie sur l'opposition entre l'espérance et la peur, la lumière et les ténèbres, le salut et la destruction. Une allégorie dont Sœur Anne Dibb a parlé ce matin de manière si émouvante. Dans la vision de Léhi, un voyage déjà difficile devient encore plus dur lorsqu'un brouillard de ténèbres se lève et cache la vue du chemin sûr mais étroit que sa famille et d'autres doivent suivre. Il est impératif de noter que ce brouillard de ténèbres descend sur tous les voyageurs, les fidèles et les déterminés. Nous pourrions même dire les élus, comme les faibles et les inconstants. Le principal enseignement de l'histoire est que les voyageurs qui réussissent sont ceux qui résistent à toutes les distractions, y compris à la tentation des sentiers interdits et aux railleries des vaniteux et orgueilleux qui les avaient empruntés. Le récit raconte que les personnes protégées sont allées résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté et ténacité à une barre de fer qui s'étendait sans interruption le long du vrai chemin. Quelque sombre que soit la nuit ou le jour, la barre marque la direction de ce sentier solitaire et rédempteur. Néphi dit plus tard, « Je vis que la barre de fer était la parole de Dieu, conduisant à l'arbre de vie, représentation de l'amour de Dieu. » Après avoir vu cette manifestation de l'amour de Dieu, Néphi explique, « Je regardais et vis le Rédempteur du monde, qui exerçait son ministère auprès du peuple, avec puissance et une grande gloire, et je vis des multitudes de gens qui étaient malades, et qui étaient affligés de toutes sortes de maladies, et de démons, et d'esprits impurs. Et ils étaient guéris par le pouvoir de l'agneau de Dieu. Et les démons et les esprits impurs étaient chassés. L'amour, la guérison, l'aide, l'espérance, le pouvoir du Christ de contrer toutes les difficultés à toutes les époques, y compris la fin des temps. C'est le havre de sécurité que Dieu veut nous donner au jour de désespoir personnel ou public. C'est le message par lequel le livre de Mormon commence et par lequel il finit. Tous sont appelés à aller au Christ et à être rendus parfaits en lui. Cette expression, tirée du témoignage final de Moroni et écrite 1000 ans après la vision de Léhi, est le témoignage d'un homme mourant au sujet du véritable chemin. Je vais maintenant parler d'un témoignage moderne des derniers jours. Lorsque Joseph Smith et son frère Hiram se sont mis en route pour Carthage pour affronter ce qu'ils savaient être un martyr imminent, Hiram a lu les paroles suivantes pour réconforter son frère. « Tu as été fidèle. » C'est pourquoi tes vêtements seront purifiés. Tu seras rendu fort au point de t'asseoir dans le lieu que j'ai préparé dans les demeures de mon père. Et maintenant, moi, Moroni, je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ. Ce sont quelques courts versets du 12e chapitre d'Éther dans le livre de Mormon. Avant de refermer le livre, Hiram a corné la page qu'il venait de lire, la faisant ainsi entrer dans le témoignage éternel pour lequel les deux frères étaient sur le point de mourir. J'ai ce livre à la main. L'exemplaire même dont Hiram s'est servi pour lire est la même page cornée est toujours visible. Plus tard, lorsqu'il était incarcéré dans la prison de Carthage, Joseph, le prophète, s'est tourné vers les gardes qui le retenaient captif et a rendu un témoignage puissant de l'authenticité divine du livre de Mormon. Peu après, les pistolets et les balles allaient ôter la vie à ces deux testateurs. Je vais vous parler de l'un des milliers d'éléments qui composent mon témoignage personnel de l'origine divine du livre de Mormon, d'un aspect qui est une preuve supplémentaire de sa véracité. Je vous le demande. À ces heures d'extrême besoin, qui étaient aussi leur dernière, ces hommes blasphémeraient-ils devant Dieu en continuant de baser leur vie, leur honneur et leur propre quête de salut éternel sur un livre et donc sur une église et un ministère qu'ils auraient inventé de toutes pièces? Ne parlons pas du fait que leurs femmes allaient devenir veuves et leurs enfants orphelins. Ne parlons pas de leur petite troupe de fidèles qui allaient se retrouver sans maison, sans foyer, sans amis, ni de leurs enfants qui allaient laisser des empreintes ensanglantées sur les fleuves gelés et le sol des plaines sauvages. Ne parlons pas des innombrables personnes qui allaient mourir et des nombreuses autres qui allaient vivre pour déclarer dans le monde entier qu'elles savent que le livre de Mormon et l'Église qui adhère sont vrais. sans tenir compte de tout cela, dites-moi si à cette heure où la mort approchait, ces deux hommes auraient voulu entrer en présence de leur juge éternel en citant un livre et en trouvant du réconfort dans un ouvrage qui, s'il n'était pas la parole de Dieu, les condamnerait pour imposture et charlatanerie jusqu'à la fin des temps. Ils ne le feraient pas. Ils étaient prêts à mourir. Plutôt que de nier l'origine divine et la véracité éternelle du livre de Mormon. Pendant 179 ans, ce livre a été examiné, attaqué, rejeté, décortiqué, pris pour cible et critiqué comme peut-être aucun autre livre de l'histoire religieuse moderne, ni peut-être même aucun autre livre dans toute l'histoire religieuse. Et il est toujours là. Des théories infondées sont nées, ont été répétées, puis ont disparu. D'Ethan Smith à Solomon Spaulding, en passant par le délire paranoïaque et le génie rusé. Aucune de ces explications franchement pathétiques n'a jamais résisté à l'examen, parce qu'il n'y a pas d'autre explication que celle donnée par Joseph lorsqu'il était son jeune traducteur dépourvu d'instruction. En cela, j'adhère totalement aux paroles de mon propre arrière-grand-père qui a dit simplement « Aucun homme méchant n'aurait pu écrire un livre comme celui-ci, ni aucun homme bon, à moins que cela soit vrai, et que Dieu lui ait commandé de le faire. » Je témoigne que personne ne peut obtenir une foi complète, ni de ce fait trouver la pleine mesure de paix et de réconfort pour notre époque, s'il n'accepte pas la nature divine du Livre de Mormon et du Seigneur Jésus-Christ dont il témoigne. Si quiconque est assez fou ou induit en erreur pour rejeter 531 pages d'un texte jusqu'alors inconnu, qui regorge de complexité littéraire et sémitique, sans essayer honnêtement de donner une explication à son origine, particulièrement à son témoignage puissant de Jésus-Christ et à l'influence spirituelle profonde que ce témoignage a eue sur maintenant des dizaines de millions de lecteurs. Cette personne, élue ou non, aura été séduite, et si elle quitte l'Église, ce devra être en passant outre au Livre de Mormon. Dans ce sens, ce livre est ce que l'on a dit que le Christ était lui-même, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un obstacle sur le chemin de celui qui ne souhaite pas croire. Des témoins, même des témoins qui ont été un certain temps hostiles à Joseph, ont témoigné jusqu'à leur mort qu'ils avaient vu un ange et touché les plaques. Ils ont déclaré, « Elles nous ont été montrées par le pouvoir de Dieu et non de l'homme. C'est pourquoi nous savons avec certitude que l'œuvre est vraie. » Je ne me trouvais pas avec le frère de Jared lorsqu'ils ont traversé un océan et se sont installés dans un nouveau monde. Je n'ai pas entendu le roi Benjamin faire son sermon dont le message lui avait été donné par un ange. Je n'ai pas prêché avec Alma et Amulek, ni été témoin de la mort par le feu de croyants innocents. Je ne me trouvais pas dans la foule néphite qui a touché les plaies du Seigneur ressuscité. Et je n'ai pas non plus pleuré avec Mormon et Moroni sur la destruction de toute une civilisation. Cependant, mon témoignage de ces annales et de la paix qu'elles procurent au cœur humain est sans équivoque et m'engage autant que le leur. Comme eux, je donne mon nom au monde pour témoigner au monde de ce que j'ai vu. Et comme eux, je ne mens pas. Dieu en rend témoignage. Je demande que mon témoignage du livre de Mormon et de tout ce qu'il implique, rendu ici en vertu de mon serment et de mon office, soit enregistré par les hommes sur la terre et par les anges aux cieux. J'espère qu'il me reste quelques années dans mes derniers jours, mais que ce soit le cas ou non, je veux qu'il soit absolument clair le jour où je me tiendrai à la barre du jugement de Dieu, que j'ai déclaré au monde, dans le langage le plus direct dont je sois capable, que le livre de Mormon est vrai, qu'il est paru comme Joseph l'a dit, et qu'il a été donné pour apporter aux fidèles bonheur et espoir dans le labeur de ces derniers jours. Mon témoignage fait écho à celui de Néphi, qui a écrit une partie de ce livre dans ses derniers jours. Et écoutez ces paroles et croyez au Christ. Et si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez au Christ, vous croirez en ces paroles, car elles sont les paroles du Christ. Et elles enseignent à tous les hommes qu'ils doivent faire le bien. Et si elles ne sont pas les paroles du Christ, jugez-en, car le Christ vous montrera au dernier jour, avec puissance et une grande gloire, quelles sont ces paroles au dernier jour. Mes frères et sœurs, Dieu pourvoit toujours à la sécurité de l'âme. Et il a fait de même à notre époque avec le livre de Mormon. Souvenez-vous de cette déclaration de Jésus lui-même. Quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. Et dans les derniers jours, ni votre cœur, ni votre foi ne vous manqueront. J'en témoigne sincèrement au nom de Jésus-Christ. Amen.
We live in perilous times.
Nous vivons à une époque dangereuse où beaucoup croient que nous n'avons pas de compte à rendre à Dieu et que nous n'avons de responsabilité ou d'intendance ni envers nous-mêmes, ni envers les autres. Dans le monde, beaucoup de gens se concentrent sur la satisfaction de leurs désirs. Ils font passer leurs intérêts en premier et aiment le plaisir plus que la droiture. Ils ne croient pas qu'ils sont le gardien de leurs frères. Dans l'Église, toutefois, nous croyons que ces intendances sont des responsabilités sacrées. Récemment, un groupe de dirigeants juifs et de rabbins très respectés a visité des bâtiments de l'Église dans la vallée du lac Salé, notamment les établissements d'entraide, le centre humanitaire, le centre d'histoire familiale et le temple des monts Oquir. À la fin de leur visite, l'un des rabbins les plus respectés des États-Unis a exprimé ce qu'il a ressenti au cours de sa visite. Il a cité des concepts de penseurs juifs imprégnés du Talmud et a fait remarquer qu'il y a deux raisons très différentes aux actes de gentillesse et de générosité. Certaines personnes rendent visite aux malades, aident les pauvres et servent leurs semblables parce qu'elles croient que c'est la bonne chose à faire et que les autres feront de même pour elles lorsqu'elles seront dans le besoin. Il a expliqué que c'est une bonne chose, que cela développe la sollicitude au sein des collectivités et que l'on doit considérer cela comme une bonne raison, mais qu'une motivation encore plus noble est de servir nos semblables parce que nous croyons que c'est ce que Dieu veut. Il a ajouté que sa visite l'a mené à croire que les saints des derniers jours font des efforts d'entraide et humanitaire, ainsi que l'œuvre du salut dans leur temple, parce qu'ils croient que c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent. Certaines personnes ont décrit ce sentiment d'être responsable, qui est compris dans le premier commandement d'aimer Dieu, comme l'obéissance à ce qui ne peut pas être forcé. Nous essayons de faire ce qui est juste, parce que nous aimons notre Père Céleste et voulons lui plaire. Non, parce que quelqu'un nous force à obéir. La guerre dans les cieux a eu lieu parce que Satan a présenté un plan qui prévoyait de forcer tout le monde à obéir à ses idées. Son plan a été rejeté. En conséquence, nous avons notre libre arbitre et la liberté de choisir le cours de notre vie. Mais nous sommes également responsables de ce libre arbitre. Le Seigneur a dit que nous serons responsables de nos propres péchés au jour du jugement. Les principes de la responsabilité et de l'intendance ont une grande signification dans notre doctrine. Dans l'Église, l'intendance ne se limite pas à une responsabilité temporelle. Spencer W. Kimball a enseigné, « Nous sommes intendants de notre corps, de notre esprit, de notre famille et de nos biens. L'intendant fidèle exerce une domination juste, prend soin des siens et s'occupe des pauvres et des nécessiteux. » Il existe beaucoup de domaines d'intendance, mais j'ai choisi d'en aborder deux. Le premier est l'intendance de nous-mêmes et de notre famille. Le second est notre intendance vis-à-vis des pauvres et des nécessiteux. Le Seigneur a souvent utilisé des paraboles concernant la terre pour enseigner la responsabilité et l'intendance. Lorsque j'étais petit garçon, j'allais voir mes grands-parents dans leur ranch pendant l'été. Il n'y avait pas d'électricité, d'eau courante, ni d'installation sanitaire à l'intérieur. Cependant, il y avait une source près de leur petite maison. La source formait un petit étang d'eau claire et pure. Et plusieurs fois par jour, j'aidais ma grand-mère à porter l'eau jusqu'à la maison, où nous l'utilisions pour boire, cuisiner, prendre un bain et laver nos vêtements. Mes grands-parents aimaient cette source qui apportait la vie et prenaient des précautions pour la protéger. Bien des années plus tard, à l'âge de 90 ans environ, mon grand-père n'habitait plus au ranch. Il ne pouvait plus s'en occuper. Je l'ai emmené voir cette propriété qu'il aimait. Sa joie de revoir le ranch s'est transformée en déception lorsqu'il s'est aperçu que les clôtures qui protégeaient la source s'étaient détériorées, que les vaches l'avaient abîmée et que l'eau pure et précieuse de la source avait été considérablement polluée. Les dégâts et la pollution l'ont beaucoup contrarié. Pour lui, c'était la violation d'une responsabilité qui lui avait été confiée, dont il s'est occupé pendant toute sa vie de travail. Il avait le sentiment qu'il n'avait pas bien protégé cette source vitale qui avait tant compté pour lui. Tout comme la source pure a été polluée lorsqu'elle est restée sans protection, de même, nous vivons à une époque où la vertu et la chasteté ne sont pas protégées. La signification éternelle de la moralité personnelle n'est pas respectée. Notre Père Céleste aimant nous a donné le moyen de mettre au monde ses enfants d'esprit afin qu'ils remplissent la mesure de leur création. Il nous a dit que les sources de la vie devaient être gardées pures, tout comme la belle source du ranch avait besoin de protection pour assurer la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vertu et la chasteté sont si importantes dans le plan de notre Père Céleste. En voyant la source polluée, mon grand-père a réagi en faisant faire des améliorations et des protections qui ont permis à la source de retrouver sa beauté et sa pureté. Nous, qui sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la responsabilité sacrée d'enseigner ces normes de moralité qui sont les mêmes pour tous ses enfants. Quand nos pensées et nos actions sont impures, nous enfreignons sa norme. Le Seigneur a dit, « Je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. » Certains se donnent des excuses pour essayer de justifier leur conduite. Dans un poème de John Holmes, un vieux constructeur de navires enseigne à un jeune homme une leçon sur le fait de se trouver des excuses. Le jeune apprend qu'en matière de construction de navires, le bateau doit voguer et qu'on ne peut pas trouver d'excuses à donner à l'océan. Il a été dit d'une ville américaine que ce qui se passe dans cette ville reste dans cette ville. J'aime le panneau à l'entrée de Sevier County en Utah sur lequel il est écrit « Ce qui se passe dans Sevier County, vous pouvez en parler à vos amis ». Lorsque nous rendons compte que nous sommes responsables devant Dieu, nous voyons à quel point nos tentatives de nous trouver des excuses peuvent être insensées. Les personnes qui se donnent des excuses nous rappellent les petits-enfants qui se cachent les yeux, convaincus que s'ils ne nous voient pas, nous ne pourrons pas les voir non plus. Je dirais que si nous pensons à rendre compte de nos actions au Sauveur, nous voyons nos fausses excuses sous leur vrai jour. Nous sommes conscients que certains ont déjà eu des conduites qui ne sont pas en accord avec la norme sacrée de la moralité. Sachez que par l'expiation du Sauveur, nous pouvons tous nous repentir et retrouver un état pur comme la source d'eau. Il est difficile de se repentir. Cela nécessite d'avoir le cœur brisé et l'esprit contrit. Mais lorsque l'on suit correctement les étapes du repentir, les paroles adressées par le prophète Alma à son fils Corianton, qui avait enfreint la morale, s'appliquent. Et maintenant, mon fils, je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler, et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Le Sauveur a dit, « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. » Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Concernant notre intendance envers notre famille, certains ont enseigné que lorsque nous ferons rapport au Sauveur et qu'il nous demandera de rendre compte de nos responsabilités terrestres, deux importantes questions, dont l'une aura trait à notre relation avec notre conjoint et l'autre à notre relation avec chacun de nos enfants. Il nous est facile de confondre nos priorités. Nous avons le devoir d'assurer la sécurité et le bien-être physique de nos enfants. Cependant, certains parents accordent une trop grande importance au bien-être temporel et matériel. Certains sont beaucoup moins diligents dans leurs efforts pour immerger leurs enfants dans l'Évangile de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la pratique religieuse au foyer est aussi importante que la nourriture, le vêtement et le logement. Les parents peuvent également aider leurs enfants à découvrir, à cultiver leurs talents. Nous sommes responsables des talents que nous avons reçus. Les enfants à qui l'on n'enseigne pas qu'ils sont responsables de leur temps et de leurs talents sont de plus en plus enclins à la folie et à l'iniquité qui sont si répandues dans le monde. La déclaration sur la famille avertit que les personnes qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour en répondre devant Dieu. La seconde intendance est celle de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, ce qui s'applique à presque chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. L'avertissement du Seigneur concernant le fait que nous sommes des intendants pour les personnes dans le besoin contient certaines des paroles les plus directes de toutes les Écritures. Si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas sa part aux pauvres et aux nécessiteux, il lèvera avec les méchants les yeux en enfer, en proie au tourment. Nous avons la responsabilité d'être intendants des bénédictions terrestres que le Seigneur nous a données. Les dirigeants juifs dont j'ai parlé ont été particulièrement impressionnés par le principe du jeûne, puis du paiement d'une offrande de jeûne généreuse. Ils trouvaient remarquable que les membres de l'Église du monde entier jeûnent tous les mois et fassent volontairement une offrande au bénéfice des personnes dans le besoin. Lorsque les rabbins ont visité le quartier de l'entraide, ils ont été touchés d'apprendre que même dans les temps de difficultés économiques, nos membres, soucieux des difficultés que beaucoup de gens rencontrent, continuent de donner généreusement pour les pauvres et les nécessiteux. Je me souviens que quand j'étais appelé comme évêque, mon prédécesseur, Russell Johnson, m'avertit que je devrais faire attention à ce que je demanderais aux membres. Il m'a dit, « Certains suivront toutes les suggestions, même au prix de grands sacrifices. » Il a mentionné une veuve de 80 ans environ qui s'était occupée de son mari et de son fils qui avaient tous les deux eu une longue maladie avant de décéder. Frère Johnson a expliqué que malgré ses maigres moyens, elle essayait toujours de répondre aux appels. Je me suis rendu compte que c'était vrai. Quand je parlais d'un besoin de dons ou de services pour aider autrui, Sarah était souvent la première personne à réagir. Un samedi, une autre sœur m'a téléphoné et m'a dit « Frère évêque, venez vite, Sarah est en danger. » Cette sœur m'a expliqué que Sarah, âgée de 80 ans, était grimpée sur une échelle pour nettoyer les gouttières de sa voisine. Cette dernière avait très peur que Sarah tombe et voulait que l'évêque intervienne. Je ne suggère pas que tout le monde peut ou devrait imiter Sarah. Certaines personnes se sentent coupables de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins immédiatement. J'aime la citation d'Anna Morrow Lindbergh que Neil Maxwell utilisa souvent. « Ma vie ne peut pas transformer en action les demandes de tous les gens à qui mon cœur répond. » Le roi Benjamin a enseigné « Veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. » Mais il a ajouté que nous devons être diligents. Je me réjouis de voir dans toute l'Église les saints faire tout ce qu'ils peuvent pour apporter un service chrétien partout où il y en a besoin. Grâce au nom des membres, l'Église peut répondre à des besoins de le monde entier, discrètement, rapidement et sans fanfare. L'Église réagit déjà aux catastrophes naturelles qui ont eu lieu aux Philippines, en Océanie et en Indonésie. L'année dernière, nos membres ont réagi au passage de l'ouragan Gustave. L'Église a travaillé en étroite collaboration avec une organisation humanitaire dirigée par Martin Luther King, troisième du nom. Par la suite, M. King a visité Salt Lake City et a dit « Au départ, j'étais venu pour exprimer à l'Église ma reconnaissance pour son aide humanitaire. Mais je me suis rapidement rendu compte que l'essence même de ce que vous êtes est beaucoup plus profonde que ça. Ma visite du centre humanitaire, du quartier de l'entraide et du temple m'a permis d'apprécier davantage la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Dans tous nos efforts pour nous acquitter de notre intendance, nous suivons Jésus-Christ. Nous essayons de nous conformer à ce qu'il nous a demandé de faire par ses enseignements et son exemple. De tout notre cœur, nous exprimons notre reconnaissance envers les membres de l'Église pour leurs dons généreux et leur service chrétien. En parlant du jeûne et du fait de nourrir les affamés et de vêtir les nus, Ésaïe a promis, dans un langage touchant, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. » Il a ajouté, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, l'Éternel sera toujours ton guide, et tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu relèveras des fondements de nombreuses générations. » J'espère que chacun de nous examinera personnellement et en famille les intendances dont il est responsable. Je prie pour que nous le fassions en gardant l'esprit que nous devrons rendre compte à Dieu et pour que nous adhérions dans cette vie à ce que on ne peut pas forcer. Je suis reconnaissant des conseils que nous donne un prophète aimant et fidèle de servir et de secourir les gens dans le besoin. Je sais que si nous suivons ce conseil, nous mériterons la réalisation de la promesse du Seigneur. Et quiconque s'avère être un intendant fidèle, juste et sage, entrera dans la joie de son Seigneur et héritera la vie éternelle. Je rends témoignage de cette vérité sacrée au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vers la fin de son ministère terrestre, le Sauveur est apparu ressuscité à ses apôtres. Le commandement qu'il leur a donné est le même appel qu'il vous lance aujourd'hui à vous, la génération montante. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 6 avril 1974, l'Église a soutenu un nouveau prophète en la personne de Spurgeon W. Kimball. Le même jour, j'ai reçu mon appel pour faire une mission à plein temps en Finlande. À l'époque, je ne savais pas que le président Kimball venait de donner un discours historique aux autorités générales et aux représentants régionaux de l'Église cette semaine-là. J'ai appris plus tard que dans ce discours, le président Kimball avait exposé sa vision prophétique de la manière dont nous, l'Église, allions accomplir le commandement du Sauveur de faire de toutes les nations des disciples. Dans son discours, le président Kimball avait invité tous les membres de l'Église à allonger la foulée et à élargir leur vision. Il a demandé à tous les jeunes hommes dignes de se préparer à faire une mission à plein temps honorable. Il a encouragé les membres de tous les pays à se préparer à fournir leurs propres missionnaires, et il a appelé des hommes capables à aider les 12 apôtres à se déployer dans le monde et à ouvrir les portes de chaque nation. Le président Kimball a également dit dans son discours de 1974 qu'il y avait 3 300 000 membres de l'Église et 18 600 missionnaires à plein temps et 633 pieux. Il nous a demandé de faire mieux, de changer notre vision et de viser plus haut. En réponse à cela, nous, les membres de l'Église, avons commencé à prier régulièrement dans nos familles, dans les réunions de Sainte-Seine et dans nos conférences de pieux, pour que le cœur des dirigeants des nations s'adoucisse et que les portes s'ouvrent à nos missionnaires. Les membres ont commencé à voir plus clairement leur responsabilité de proclamer l'Évangile. Nos jeunes gens ont répondu à l'appel et une grande armée de missionnaires s'est rassemblée. Nous avons vu la vision du président Kimball commencer à s'accomplir. Pendant que je faisais ma mission en Finlande, j'ai appris que Sœur Mahoney, la femme du président de mission, était native de Finlande. Elle avait grandi dans la partie est de la Finlande, dans une ville qui s'appelait Viipuri. Lorsque la guerre a commencé à ravager la Finlande et d'autres pays durant la Seconde Guerre mondiale, sa famille et elle sont parties de chez eux à Viipuri et a été intégrée à l'Union soviétique et renommée Viborg. Lors de nos conférences de zone, Sœur Mahoney nous parlait des paroles qui étaient restées à Viipuri et de son désir que l'Évangile leur soit apporté. Après l'invitation du président Kimball, nous nous sommes rassemblés en prière pour que le cœur des dirigeants de ce pays s'adoucisse, afin que l'Évangile soit prêché en Union soviétique. Nous allions jusqu'à la frontière entre la Finlande et l'Union soviétique, et nous voyions les miradors et les clôtures, et nous demandions qui seraient ces jeunes gens et jeunes filles courageux, et quand ils franchiraient cette frontière pour apporter l'Évangile au peuple russe. Je dois admettre qu'à l'époque, cela nous semblait impossible. Il y a 3 ans, notre fils Eric a reçu son appel pour la mission de Saint-Pétersbourg, en Russie. Dans la première lettre qu'il nous a envoyée, il a écrit en substance « Chère maman et papa, j'ai été affecté à ma première ville en Russie. Papa, tu en as peut-être déjà entendu parler. Elle s'appelle Viborg. Mais avant, c'était une ville finlandaise qui s'appelait Viipuri. J'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai compris qu'Eric se trouvait dans la ville même pour laquelle nous avions prié 32 ans plus tôt. Il a trouvé une église et une branche de saints fidèles. Il vivait et œuvrait dans un lieu où il m'avait semblé impossible d'entrer lorsque j'étais jeune. Je ne m'étais pas rendu compte il y a tant d'années, lorsque nous prions pour que les frontières s'ouvrent et que les missionnaires y aillent, que je priais pour notre fils. Chose plus importante encore pour vous, la génération montante, notre fils Eric ne se rendait pas compte que ses collègues et lui étaient la réponse aux prières faites par des milliers de saints fidèles bien des années auparavant. Vous, la génération montante, vous êtes l'accomplissement de cette prophétie selon laquelle, à notre époque, la vérité de Dieu ira de l'avant avec hardiesse, avec noblesse et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité toutes les contrées, balayé tous les pays, résonné dans toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Depuis l'instruction prophétique du président Kimball d'il y a 35 ans, le nombre des membres de l'Église est passé à 13,5 millions. Il y a maintenant 52 000 missionnaires et plus de 2 800 pieux de sillon. Qui sont les ouvriers de la vigne qui ont aidé à réaliser cette œuvre merveilleuse et ce prodige? Ce sont certainement les prophètes et les apôtres qui sont assis devant nous aujourd'hui. Ce sont aussi les merveilleux présidents de pieux et évêques qui ont travaillé si fidèlement. Mais ce sont aussi vos parents, les mères et les pères, les tantes et les oncles, et les frères et sœurs qui sont assis à côté de vous. Vous, la génération montante, d'aujourd'hui. Cependant, le fait le plus important est que dans nos efforts pour apporter l'Évangile à toutes les nations, nous avons juste commencé à effleurer la surface. Ainsi donc, le flambeau passe maintenant à une nouvelle génération. Par son prophète d'aujourd'hui, le président Monson, le Sauveur a réitéré cette invitation lorsqu'il a déclaré « Notre mot d'ordre a été lancé par notre Seigneur et Sauveur, qui se tient à la tête de la grande armée de missionnaires du monde entier. » Après sa résurrection, il est apparu à ses 11 disciples. Il aurait pu choisir de leur donner n'importe quel conseil, n'importe quelle déclaration, n'importe quel avertissement. Mais qu'a-t-il dit? C'est rapporté dans Matthieu 28, 18-20. Il a dit ce qui suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le président Monson poursuit. Quelle promesse! Si nous acceptons cet appel sacré, cette autorité qui nous lie, je suis avec vous toujours, tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne peux imaginer de promesse plus grande. Fin de citation. Dans le livre de Mormon, Jacob parle de notre tâche d'aujourd'hui dans l'allégorie des oliviers francs et sauvages. C'est pourquoi, va, appelle les serviteurs, afin que nous travaillions diligemment de toutes nos forces dans la vigne, afin que nous préparions le chemin, afin que je puisse produire encore le fruit naturel qui est le plus précieux, qui est plus précieux que tous les autres fruits. C'est pourquoi allons de toutes nos forces cette dernière fois. Car voici, la fin approche, et c'est la dernière fois que je taille ma vigne. L'appel du Sauveur s'adresse à vous, la génération montante. Il demande des jeunes gens et des jeunes filles dignes, préparés et fidèles, qui écouteront la voix du prophète, qui s'avanceront et diront, comme le Sauveur l'a lui-même dit, « Me voici, envoie-moi ». Le besoin n'a jamais été aussi grand. Le champ n'a jamais été aussi blanc. Vous êtes appelés à aller cette dernière fois. Il n'y a pas d'appel plus grand ni d'œuvre plus grande que de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare solennellement et je témoigne que les cieux sont ouverts, que Dieu a non seulement parlé, mais qu'il parle aujourd'hui. Son Fils Jésus-Christ vit et il vous invite, comme il a invité ses apôtres d'autrefois, Pierre et André, en disant, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Puissiez-vous répondre comme ils l'ont fait, en laissant vos filets immédiatement et en le suivant. Je prie pour que vous, la génération montante, défendiez la vérité et la justice et compreniez votre appel sacré d'aller et de faire des nations les disciples du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Nous aurons maintenant le plaisir, l'assemblée et le chœur chanteront ensuite aux vaillants guerriers d'Israël. Après ce cantique, Dale G. Rindland et Michael T. Ringwood des 70 nous adresseront la parole. Ils seront suivis par Joseph W. Citati des 70. Après le discours de frère Citati, nous entendrons D. Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres.
This is the 179th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In December 1960,
en 1967, la première transplantation cardiaque réussie a eu lieu en Afrique du Sud. On a enlevé le cœur malade d'un homme mourant pour greffer à la place le cœur sain d'un donneur décédé. Depuis, il y a eu plus de 75 000 transplantations cardiaques dans le monde entier. Pour transplantation cardiaque, le corps de bénéficiaire reconnaît le nouveau cœur comme un corps étranger et se met à l'attaquer. Si on ne l'en empêche pas, la réaction naturelle du corps rejettera le nouveau cœur et le receveur mourra. Les médicaments peuvent supprimer cette réaction naturelle, mais il faut le prendre tous les jours et de manière rigoureuse. De plus, l'on doit surveiller l'état du nouveau cœur. On pratique de temps en temps des biopsies cardiaques pour lesquelles on prélève de petits échantillons de tissu cardiaque que l'on examine ensuite au microscope. Lorsque l'on trouve des signes de rejet, on adapte le traitement. Si l'on détecte le processus de rejet suffisamment tôt, on peut éviter la mort. Chose étonnante, certains patients négligent leur nouveau cœur. Ils oublient de temps en temps de prendre leurs médicaments. Ils pensent que, parce qu'ils se sentent bien, ils sont en bonne santé. Trop souvent, cette attitude imprévoyante écarte leur vie. Une transplantation cardiaque peut prolonger de plusieurs années la vie de personnes qui seraient mortes d'insuffisance cardiaque. Mais il ne s'agit pas de l'opération chirurgicale suprême. L'opération chirurgicale suprême n'est pas un grand changement de cœur physique, mais un grand changement de cœur spirituel. Grâce à l'expiation de Christ et par l'obéissance aux lois et ordonnances de l'Évangile, nous subissons ce changement de cœur spirituel. À cause de nos transgressions, notre cœur spirituel est tombé malade et s'est endurci. Nous rendons sujets à la mort spirituelle et nous séparons de notre Père céleste. Le Seigneur a décrit l'opération dont nous avons tous besoin. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cependant, tout comme chez les bénéficiaires d'une transplantation cardiaque, le grand changement de notre cœur spirituel n'est que le début. Le repentir, le baptême et la confirmation sont nécessaires, mais pas suffisants. En effet, on doit prendre soin de la même manière, si ce n'est mieux d'un cœur changé spirituellement que d'un cœur transplanté physiquement, si l'on veut endurer jusqu'à la fin. Ce n'est que si nous le faisons que le Seigneur nous tiendra pour innocents à l'heure du jugement. Nous connaissons tous des personnes qui ont connu ce grand changement de cœur, mais qui ont succombé à l'homme naturel par la suite. Elles se sont mises à négliger leur culte et leur dévotion à Dieu. Leur cœur s'est endurci et elles ont ainsi mis leur salut éternel en péril. La vie des gens qui ont été convertis par la prédication des fils de Mosiah nous apprend comment éviter de rejeter ce cœur qui a connu un grand changement spirituel. Nous lisons que tous ceux qui furent amenés à la connaissance de la vérité par la prédication d'Amon et de ses frères et furent convertis au Seigneur n'apostasièrent jamais. Comment ont-ils réussi à endurer jusqu'à la fin? Nous savons qu'ils étaient parfaitement honnêtes et droits en tout, et ils étaient fermes dans la foi de Christ jusqu'à la fin. Leur droiture et leur honnêteté sans faille en tout suggèrent qu'ils étaient très fidèles à leurs alliances et ne limitaient pas leurs engagements envers Dieu ou envers les hommes. Nous apprenons également qu'ils ont enseigné l'Évangile à leurs enfants dans leur foyer. De plus, nous apprenons que ce peuple a enterré ses armes de guerre, s'éloignant ainsi de ceux qui pouvaient les tenter. Ils ont fréquemment examiné l'état de leur cœur qui avait connu un changement spirituel. En examinant au sang figuré leur cœur qui avait connu un changement, ils pouvaient y déceler tout début de rejet et y remédier. Alma le Jeune pose des questions aux contemporains du peuple d'Amon, qui au sens figuré pratique une biopsie sur le cœur qui a connu un changement spirituel. Il demande si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? et leur demande ensuite s'ils sont suffisamment humbles, dépouillés d'orgueil et d'envie et bons envers leurs semblables. Répondre à de telles questions avec honnêteté nous permet de corriger les premiers écarts, de sentir à trois et rassurer et de respecter rigoureusement nos alliances. En 1980, ma famille et moi, nous vivions en face de l'hôpital dans lequel j'étais interne. Je travaillais tous les jours, y compris le dimanche. Lorsque le dimanche terminait à 14 heures, je pouvais rejoindre ma femme et ma fille pour nous rendre à l'église pour les réunions qui commençaient à 14h30. Un dimanche, je savais que je terminerais probablement vers 14h. Cependant, je me suis rendu compte que si je restais à l'hôpital un petit peu de temps, ma femme et ma fille partiraient à l'église sans moi. Je pourrais alors rentrer chez moi et faire une sieste bien méritée. J'ai le regret de dire que c'est exactement ce que je fais. J'ai attendu jusqu'à 14h15, je suis rentré lentement chez moi et je me suis allongé sur le canapé espérant faire une sieste. Mais je n'arrivais pas à m'endormir. J'étais perturbé et préoccupé. J'avais toujours adoré aller à l'église. Je demandais pourquoi ce jour-là la flamme de mon témoignage et le zèle que j'avais ressenti auparavant me faisaient défaut. Je n'ai pas eu à réfléchir pendant longtemps. À cause de mon emploi de temps, j'avais négligé mes prières et l'étude des Écritures. Je me levais le matin, je faisais ma prière et j'allais travailler. Souvent, la nuit succédait au jour auquel succédait de nouveau la nuit avant que je rentre chez moi tard le soir suivant. J'étais alors si fatigué que je m'endormais avant de prier ou de lire mes Écritures. Le lendemain matin, le processus se répétait. Le problème était que je ne faisais pas les choses de base que je devais faire pour empêcher que mon cœur qui avait connu un grand changement ne se transforme en pierre. Je me suis levé du canapé, je me suis agenouillé et j'ai supplié Dieu de m'en pardonner. J'ai promis à mon Père Céleste que je changerais. Le lendemain, j'ai apporté un livre de mormon à l'hôpital. Ce jour-là, sur ma liste des choses à faire et tous les jours depuis, se trouvaient deux choses. Prier au moins matin et soir et lire les Écritures. Parfois, minuit approchait et je devais me dépêcher de trouver un endroit tranquille pour prier. Certains jours, mon étude des Écritures était brève. J'ai également promis à mon Père Céleste que je n'essaierais toujours d'aller à l'église, même si je ratais une partie de la réunion. Au bout de quelques semaines, j'ai retrouvé mon zèle et la flamme de témoignage a brûlé ardemment de nouveau. Je me suis promis, quelle que soit la situation, de ne jamais retomber dans le piège mortel, de négliger ces actions à l'apparence insignifiante et de mettre en péril des choses d'une nature éternelle. Pour endurer jusqu'à la fin, nous devons entretenir notre foi en Jésus-Christ en priant, en lisant les Écritures, en prenant la Sainte Cène chaque semaine et en ayant la compagnie constante du Saint-Esprit. Nous devons aider et servir les autres activement. Nous devons être parfaitement droits et honnêtes en tout, ne jamais transiger sur les alliances que nous avons contractées avec Dieu ou nos engagements envers les hommes, quelles que soient les circonstances. Dans notre foyer, nous devons parler de Christ afin que nos enfants et nous-mêmes ayons le désir d'appliquer l'expiation dans notre vie. Nous devons fréquemment pratiquer une biopsie de notre cœur qui a connu un grand changement et faire disparaître tout signe de début d'endurcissement. Examinez l'état de votre cœur qui a connu un changement. Y détectez-vous un rejet résultant d'une tendance de l'homme naturel à être négligent? Si c'est le cas, trouvez un endroit où vous pourrez, vous aussi, vous agenouiller. Souvenez-vous, l'enjeu ne se limite pas à quelques années de vie sur terre. Ne prenez pas le risque de perdre les fruits de l'opération chirurgicale suprême, le salut éternel et l'exaltation. Je prie pour que nous puissions exercer la foi en Jésus-Christ et marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Faith in Christ and endure joyfully to the end. In the name of Jesus Christ, Amen. Over the past several months, I have been drawn repeatedly to a passage of scripture recorded.
Ces derniers mois, mon attention a été plusieurs fois attirée par un passage d'écriture qui se trouve dans Lamentations chapitre 6. Et ainsi, nous voyons que le Seigneur commençait à déverser son esprit sur les Lamanites à cause de leur docilité, de leur bonne volonté à croire en ses paroles. Quand je l'ai lu pendant mon étude personnelle, cette écriture m'a profondément touché et j'y ai réfléchi pendant plusieurs semaines. J'ai commencé à me demander si je trouvais cela facile de croire en la parole de Dieu. Pourquoi était-il facile pour ces convertis lamanites de croire? Qu'est-ce qui a fait qu'un peuple plein de haine et d'incrédulité soit devenu docile et disposé à croire en la parole de Dieu? Nous apprenons la cause de ce changement qui a eu lieu pendant une année remarquable. Pendant la 62e année du règne des juges, 8000 lamanites de Zarahemla se sont convertis lorsque Néphi et Léhi ont enseigné avec pouvoir et autorité et que ce qu'ils devaient enseigner leur a été donné. 300 autres se sont convertis grâce à une expérience miraculeuse lors de laquelle ils ont entendu une voix qui les a percés jusqu'au tréfonds de l'âme. Ces 300 personnes étaient allées dans la prison où se trouvaient Néphi et Léhi pour les tuer. Mais elles se sont retrouvées à invoquer Dieu lorsqu'Aminadab, ancien néphite et dissident de l'Église, s'est souvenu et a su qu'il devait prier jusqu'à ce qu'ils aient foi au Christ. Beaucoup d'autres lamanites se sont convertis grâce au témoignage que les 300 ont rendu lors de leur ministère auprès du peuple, déclarant ce qu'ils avaient vu et entendu. La 62e année se termine par cette déclaration. Toutes ces choses étaient arrivées et les lamanites étaient devenus, pour la plupart, un peuple juste. La qualité de leur conversion a conduit ces lamanites à déposer leur haine envers les néphites et leurs armes de guerre. Ils étaient fermes et constants dans leur foi. Ils respectaient les commandements et marchaient dans la vérité et la droiture, et ils progressaient dans la connaissance de Dieu. Pourtant, ce qui m'impressionne le plus, c'est leur docilité et leur bonne volonté à croire en la parole de Dieu. Ces dispositions leur ont permis d'avoir l'esprit en abondance et les ont aidés à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Malheureusement, pendant cette même période, la plupart des néphites se sont endurcis et sont devenus impénitents et excessivement méchants. Ce qui arrivait aux néphites était à l'opposé de ce qui se passait pour les lamanites. La dureté de leur cœur a entraîné un retrait de l'esprit, tandis que la douceur du cœur des lamanites a amené un déversement de l'esprit. En réfléchissant à la raison du grand changement de cœur de ces lamanites, je me suis rendu compte que cette docilité et cette bonne volonté à croire en la parole de Dieu découle de la douceur de cœur. Elles émanent d'un cœur sensible au Saint-Esprit. Elles proviennent d'un cœur qui peut aimer. Elles résultent d'un cœur disposé à faire et à respecter des alliances sacrées. Elles viennent d'un cœur doux qui peut ressentir le pouvoir de l'expiation du Christ. Cette facilité à croire découle de l'exemple d'autres personnes qui ont le cœur doux et qui sont des modèles de cette docilité, comme Néphi et Léhi. Leur père, Élaman, leur avait donné ces noms pour leur rappeler la foi de leur père. De même, beaucoup d'entre nous ont incrusté dans leur nom un patrimoine de foi légué par leurs ancêtres, qui avaient le cœur doux et trouvaient facile de croire en la parole de Dieu. Parmi eux se trouve mon arrière-arrière-grand-père, Ephraim K. Hanks. Quand il a appris que son frère aîné était parti avec les Mormons, il a résolu de le ramener à la maison. Sans surprise, Ephraim est allé s'installer à nouveau et s'est fait baptiser, peu après avoir entendu son frère rendre témoignage de Joseph Smith et de l'Évangile rétabli. Nous avons la bénédiction d'avoir d'autres exemples dans les Écritures qui nous enseignent comment atteindre une docilité et une disposition à croire. Néphi, fils de Léhi, en est un. Quand il a entendu son père prédire la destruction de Jérusalem, sa première réaction était d'invoquer le Seigneur jusqu'à ce que son cœur soit doux et qu'il croie toutes les paroles de son père. Le Seigneur s'est adressé directement à lui en ces mots. « Béni es-tu, Néphi, à cause de ta foi, car tu m'as recherché diligemment, avec humilité de cœur. » Néphi enseigne l'importance du désir de respecter les commandements et d'invoquer Dieu et de la diligence à le faire, pour être en mesure de dire facilement « J'irai et je ferai ». Grâce à Enos, nous apprenons l'importance de permettre aux paroles de Dieu de pénétrer profondément notre cœur jusqu'à ce que nous ayons faim de la vérité. Nous devenons dociles à croire lorsque la parole de Dieu est gravée dans notre cœur.
L'exemple du Père de Lamoni nous apprend l'importance d'avoir le cœur doux, disposé à changer. Le Père de Lamoni était prêt à céder à Amon la moitié de son royaume en échange de sa vie. Lorsqu'Amon a demandé simplement que le roi permette à Lamoni d'adorer comme il le désirait dans son propre royaume, la générosité et la grandeur des paroles d'Amon troublaient l'esprit et le cœur du roi. Quand Aaron est arrivé pour instruire le roi, son cœur avait changé et il avait une docilité à croire. Il a dit à Aaron, « Voici, je croirai. » Il a ensuite exprimé la volonté de renoncer à tout ce qu'il possédait, même son royaume, pour connaître la joie du Seigneur. Lorsqu'il a prié pour la première fois, il a offert ce que notre Père Céleste voulait. Il a dit, « Je délaisserai tous mes péchés pour te connaître. » La docilité, la bonne volonté à croire la parole de Dieu découle du repentir et de l'obéissance. Lorsque nous examinons notre vie, nous voyons qu'il nous était plus facile de croire à la parole de Dieu à certaines périodes, les périodes de grands changements, comme le mariage ou la naissance d'un enfant, les périodes de service intense en raison d'un nouvel appel ou d'une mission, les périodes de notre jeunesse avec un évêque, des dirigeants de jeunes et des instructeurs du séminaire formidable, les périodes d'épreuves, les périodes de progression, lorsque nous avons découvert l'Évangile, sont toutes des périodes de docilité à croire. La période la plus importante est peut-être l'enfance. Lorsque j'étais enfant, il m'était facile de croire la parole de Dieu que m'enseignaient les personnes vaillantes qui étaient mes parents et mes grands-parents. Il n'est pas étonnant que l'on nous exhorte à devenir comme de petits enfants pour hériter la vie éternelle. Il n'est pas étonnant que l'on nous enseigne à élever nos enfants dans la lumière et la vérité. Si vous êtes comme moi, vous vous apercevrez que ce qui apportait vraiment une docilité et une bonne volonté à croire, ce n'était pas les circonstances, mais l'engagement à respecter l'Évangile lors de ces périodes de la vie. Vous étiez alors plus souvent à genoux et plongé dans les Écritures. Il vous était plus facile de vous rassembler pour la soirée familiale et la prière en famille. Il vous était plus facile d'aller à l'église et d'adorer dans le temple. Il vous était facile de payer la dîme et les offrandes. En effet, le fait de vivre l'Évangile quotidiennement apporte la douceur de cœur nécessaire pour avoir la docilité et la bonne volonté de croire à la parole de Dieu. Je témoigne que si nous suivons les enseignements que nous donnent notre prophète et nos apôtres lors de cette conférence, nous serons amenés à une docilité, une disposition à croire en la parole de Dieu. On nous a recommandé d'aller au temple, de fortifier la famille par la prière en famille. L'étude des Écritures et la soirée familiale devraient diligemment dans la prêtrise et les appels de l'Église, de payer la dîme et les offrandes, d'avoir foi, de prier pour être guidé et de vivre de manière digne de la compagnie du Saint-Esprit. Nous ressemblons souvent à Naaman, le lépreux syrien, que l'on a envoyé vers le prophète d'Israël pour être purifié. Quand Élisée a simplement envoyé un messager lui dire qu'il devait se plonger 7 fois dans le Jourdain, Naaman est parti en colère, heureusement. L'un de ses serviteurs lui a dit, « Si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Je témoigne que nous parviendrons à cette docilité, à cette disposition à croire, si nous faisons les choses apparemment insignifiantes que l'on nous a enseignées à maintes reprises depuis notre jeunesse. L'obéissance produira une douceur de cœur et une docilité à croire en la parole de Dieu. Je rends témoignage que la docilité à croire emmènera un déversement de l'esprit. Nous pouvons mesurer notre docilité, notre disposition à croire chaque semaine, lorsque nous assistons à la réunion de Sainte-Seine. Lors de cette réunion, nous renouvelons nos alliances en exprimant notre volonté de prendre sur nous le nom du Christ, de nous souvenir toujours de lui et de garder ses commandements. Lorsque nous assistons à la réunion de Sainte-Seine, il devrait nous être facile de faire ces alliances et d'écouter et d'apprendre par le Saint-Esprit. Je désire ardemment que l'Esprit du Seigneur se déverse sur moi en raison de ma docilité et de ma disposition à croire ses paroles. J'ai senti que cette Écriture m'avait éveillé au sentiment de mon devoir envers Dieu, que je devais être soumis et doux, facile à supplier, plein de patience, diligent à garder en tout temps les commandements de Dieu, rendant toujours grâce à Dieu de tout ce que je reçois. Puissions-nous toujours trouver facile de croire à sa parole. Puissiez-vous, comme moi, déclarer avec docilité que Jésus est le Fils de Dieu. Il est notre berger. Et les personnes dociles et disposées à croire reconnaîtront sa voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelques semaines, Melville Perkins d'Alaska et moi
Nous nous tenions à la chaire devant une assemblée du pieu de Vancouver au Canada. D'une voix émouvante, il a invité les saints à observer l'image qu'ils avaient sous les yeux. Un descendant des pionniers des charrettes à bras mormons et un converti de l'église pionnier venant d'une nation africaine lointaine qui servent le Seigneur côte à côte. Depuis ses humbles débuts, il y a 180 ans à Fayette, dans l'État de New York, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est devenue une religion mondiale. Je suis témoin de cette œuvre merveilleuse. Je prie que l'Esprit du Seigneur soit avec vous et avec moi pendant que je vous fais part cet après-midi de mes pensées. Je suis reconnaissant pour les clés de la révélation en cette dernière dispensation. Par l'exercice de ces clés, par l'intermédiaire de prophètes vivants depuis leur établissement, les enfants de Dieu ont aujourd'hui, ici-bas, la possibilité de comprendre plus pleinement le plan de bonheur qu'il a pour eux qu'à toute autre époque. L'amour de notre Père Céleste s'est manifesté lorsque le chemin pour tous les vivants et pour tous les morts de chaque nation a été ouvert maintenant et à l'avenir pour recevoir l'exaltation en sa présence selon l'exercice de leur libre arbitre. Le principe est le même et la bénédiction est la même pour tous. Dieu a réaffirmé qu'il ne fait pas exception de personne. L'Évangile s'est répandu sur la terre selon un modèle qui permet que s'accomplissent les desseins de Dieu qui sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Après la chute, Adam et Ève, nos premiers parents, ont contracté une alliance éternelle avec Dieu pour leur salut. Quand les enfants d'Adam se sont multipliés, deux groupes sont apparus. Un groupe, dirigé par Enoch, a respecté l'alliance, si bien qu'il ne peut plus rester ici-bas. Alors le Seigneur l'a recueilli auprès de lui. La méchanceté du deuxième groupe était si grande qu'il a encouru les jugements de Dieu. Le déluge l'a englouti, ne laissant que la famille de Noé, un descendant juste d'Enoch. Dieu a fait une alliance avec Noé, avec la promesse supplémentaire que la vie sur terre ne serait plus détruite par les eaux. Lorsque la famille de Noé s'est multipliée une nouvelle fois, beaucoup de gens sont devenus méchants. Poussés par l'orgueil, ils ont construit la tour de Babel. Dieu a permis que les jugements du ciel s'abattent sur eux. Leur langue a été confondue et ils ont été dispersés. Seules quelques personnes qui étaient obéissantes ont été préservées. Parmi les personnes qui avaient été préservées se trouvait le frère de Jared, homme d'une grande foi, qui avait supplié le Seigneur en faveur des Jaredites justes. Le Seigneur les a conduits sur le continent américain avec la promesse que, s'ils le servaient, ils seraient à l'abri de la servitude et la captivité de toutes les nations sous le ciel. Plus tard, les Néphites ont également été conduits sur le même continent. À la fin, les civilisations jarédites et néphites ont été détruites parce qu'elles ne sont pas restées fidèles. Abraham, descendant de Noé et homme d'une grande foi qui avait été aussi épargné, a été conduit à Canaan. Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec la promesse supplémentaire que sa postérité serait comme les étoiles du ciel et qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Les nations de cette promesse étaient les descendants de Noé dispersés depuis la tour de Babel, connus dans un sens général sous le nom de gentils. Dieu a renouvelé cette alliance avec Isaac, fils d'Abraham, et avec son petit-fils Jacob, qui est devenu Israël. Parce que les descendants d'Israël ne pouvaient pas supporter les conditions de l'alliance, celle-ci a été changée durant la dispensation de Moïse. Une alliance inférieure a été présentée et a perduré parmi les enfants d'Israël jusqu'à ce que le Christ ait rétabli la plénitude de l'Évangile durant son ministère terrestre. Après sa résurrection, le Sauveur a annoncé que le moment était venu de porter l'Évangile aux gentils. Précédemment, dans la parole des ouvriers de la vigne, Il avait révélé que les nations gentilles seraient visitées et invitées l'une après l'autre. Cependant, les bénédictions resteraient les mêmes, quel que soit l'ordre de l'invitation. Après l'ascension du Sauveur, Pierre, l'apôtre président, descendant d'Israël, a détenu les clés de la prêtrise avec lesquelles il a dirigé l'Église. Il est important de remarquer que, bien que le Sauveur lui ait déjà donné l'autorité, Pierre n'a baptisé Corneille, le premier gentil, qu'après avoir reçu la révélation expresse qu'il devait le faire. Le ministère auprès des gentils a été interrompu par le martyre de Pierre et la mort des autres apôtres, après quoi les clés de la prêtrise ont été enlevées de la terre. A suivi alors la longue période de l'apostasie. Les clés ont été redonnées en 1829 à Joseph Smith par Pierre, Jacques et Jean, ressuscités, juste avant l'organisation de l'Église. L'Évangile, dans sa plénitude, était de nouveau sur terre et commençait à se répandre parmi les nations des gentils comme étant la nouvelle alliance éternelle. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a révélé que le critère déterminant concernant l'ordre dans lequel les nations gentilles sont invitées comprend la capacité de nourrir spirituellement et temporellement le royaume de Dieu à mesure qu'il est établi sur la terre pour la dernière fois. Nous voyons que dès que l'Église rétablie a commencé à être organisée ici-bas, les prophètes vivants ont cherché à connaître et ont suivi la volonté de Dieu concernant la manière dont l'Évangile devait se répandre parmi les nations. J'ai vécu pour voir l'époque prédite par le prophète Zénos dans l'allégorie de l'Olivier, quand les justes de toutes les nations de la terre auraient part à l'alliance de Dieu avec Israël. J'ai vu le bon fruit de l'Évangile fleurir en Afrique, mon continent natal. Au bout de seulement 30 ans, il y a 300 000 saints là-bas. Dans la doctrine et les principes de l'Évangile rétabli, beaucoup de gens trouvent une fondation sûre pour leur foi. Des familles déracinées de leur collectivité rurale à la recherche d'un avenir meilleur dans les villes ont trouvé un nouveau moyen de s'accrocher aux traditions familiales fortes qui sont peu à peu attaquées en cette époque de mondialisation. L'Esprit du Seigneur agit avec puissance parmi le peuple. Une nouvelle culture céleste se développe dans les foyers, nourrie par l'obéissance bien disposée aux recommandations du prophète vivant de prier et d'étudier les Écritures tous les jours et de se réunir une fois par semaine pour faire la soirée familiale. En conséquence, beaucoup de gens sont capables de se libérer des chaînes des traditions qui restreignent l'exercice de leur libre arbitre. Un exemple dans ma vie personnelle, trois de nos enfants se sont récemment mariés au temple sans le fardeau de la dot, pratique traditionnelle qui amène beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles à vivre ensemble sans s'engager l'un envers l'autre. La possibilité de se marier au temple, dans les trois temples maintenant établis à Accra au Ghana, à Aba au Nigeria et à Johannesburg en Afrique du Sud, contribue à faire naître un nouvel espoir en la sainteté du mariage. Je témoigne du Sauveur Jésus-Christ, par qui nous avons l'Évangile et la promesse de l'exaltation. Je témoigne de notre prophète vivant, Thomas Monson, par qui nous avons l'assurance de recevoir les instructions du Sauveur pour continuer d'offrir le salut à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
During World War II,
pendant la Seconde Guerre mondiale, James E. Faust, président Faust, alors qu'il était une nouvelle recrue de l'armée des États-Unis, s'est présenté aux sélections pour devenir élève officier. Il a comparu devant une commission d'enquête composée de ce qu'il a décrit comme des militaires de carrière durs à cuire. Au bout d'un moment, les questions portaient sur la religion. La dernière question a été, en temps de guerre, ne devrait-on pas être plus souple avec le code moral,
Le stress du combat ne justifie-t-il pas qu'un homme fasse ce qu'il ne ferait pas chez lui dans une situation normale? Le président Faust raconte, « J'ai vu une chance de marquer quelques points et de paraître large d'esprit. Je savais très bien que les hommes qui me posaient cette question ne vivaient pas selon les principes qu'on m'avait enseignés. La pensée m'a traversé l'esprit que je pouvais peut-être dire que j'avais mes croyances, mais que je ne voulais pas les imposer à d'autres. Mais il m'a semblé voir défiler dans mon esprit le visage des nombreuses personnes à qui j'avais enseigné la loi de chasteté quand j'étais missionnaire. J'ai fini par dire tout simplement, je ne crois pas qu'il y ait deux poids, deux mesures en matière de morale. J'ai quitté le jury résigné au fait qu'il n'avait pas aimé mes réponses et que ça me vaudrait sûrement une très mauvaise note. Quelques jours plus tard, quand les résultats ont été affichés, à mon grand étonnement, j'étais reçu. J'étais dans le premier groupe d'élèves officiers de l'école. Le président Faust a déclaré que c'était l'un des carrefours les plus critiques de sa vie. Le président Faust était conscient que nous avons tous le don du libre arbitre moral accordé par Dieu, le droit de choisir et l'obligation de répondre de ses choix. Il comprenait aussi et démontrait que pour donner des résultats positifs, le libre arbitre moral doit s'accompagner de discipline morale. Par discipline morale, j'entends autodiscipline basée sur des principes moraux. La discipline morale est l'exercice cohérent du libre arbitre pour choisir le bien, parce que c'est bien, même si c'est difficile. Elle refuse une vie centrée sur soi, en faveur de l'acquisition d'une personnalité digne de respect et de vraie grandeur, par le service à la manière du Christ. La racine du mot « discipline » est la même que celle du mot « disciple », qui suggère qu'agir conformément à l'exemple et aux enseignements de Jésus-Christ est la discipline idéale qui, associée à sa grâce, permet de devenir quelqu'un de vertueux et d'une excellente moralité. La discipline morale de Jésus découlait du fait qu'il était le disciple du Père. Il a expliqué à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De même, notre discipline morale prend ses racines dans la loyauté et le dévouement au Père et au Fils. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui donne la certitude morale sur laquelle repose la discipline morale. Les sociétés dans lesquelles la plupart d'entre nous vivent sont depuis plus d'une génération incapables de promouvoir la discipline morale. Elles enseignent que la vérité est relative et que chacun décide lui-même de ce qui est bien. Des concepts comme le mal ou le péché sont condamnés comme étant des jugements de valeur. Comme le Seigneur le décrit, chacun suit sa propre voie et selon l'image de son propre Dieu. En conséquence, l'autodiscipline s'est érodée et les sociétés en sont réduites à essayer de maintenir l'ordre et la civilité par la contrainte. L'absence de maîtrise interne de la part des personnes incite les gouvernements à exercer un contrôle extérieur. Un journaliste a fait observer que le comportement chevaleresque, par exemple, protégeait autrefois les femmes de tout comportement grossier. Aujourd'hui, nous attendons des lois contre le harcèlement sexuel, qu'elles protègent contre les comportements grossiers. Les lois et la police ne peuvent en aucun cas remplacer les usages, les traditions et les valeurs morales comme moyen de réguler le comportement humain. La police et le système judiciaire sont au mieux la dernière ligne de défense désespérée d'une société civilisée. Notre dépendance croissante des lois pour réguler le comportement montre à quel point nous sommes devenus non civilisés. Presque partout dans le monde, nous connaissons une récession économique générale et dévastatrice. Elle a eu de multiples causes, mais l'une des plus grandes a été une malhonnêteté et une immoralité généralisée, particulièrement dans les marchés américains de la finance et du logement. Les réactions visent surtout à introduire des règles plus nombreuses et plus strictes. Il se peut que cela dissuade certains d'agir sans scrupules, mais d'autres n'en seront que plus créatifs dans leur façon de les contourner. Il ne pourrait jamais y avoir assez de règles, si soigneusement conçues qu'elles prévoient et couvrent chaque situation. Et même si c'était le cas, la mise en application serait bien trop lourde et bien trop coûteuse. Cette approche conduit à diminuer la liberté de tout le monde. Pour reprendre la phrase mémorable de l'évêque Fulton G. Sheen, catholique américain, « Nous n'avons pas voulu accepter le joug du Christ, et maintenant nous devons trembler devant le joug de César. » En fin de compte, seule une boussole morale intérieure chez chacun pourra agir efficacement sur la racine ainsi que sur les symptômes de la décadence de la société. Les sociétés lutteront en vain pour instaurer le bien commun tant que le péché ne sera pas dénoncé comme péché et que la discipline morale n'aura pas pris sa place au panthéon des vertus civiques. La discipline morale s'apprend au foyer. Bien que nous ne puissions contrôler ce que les autres font ou non, les saints des derniers jours peuvent certainement être comptés parmi ceux qui font preuve de vertu personnellement et inculquent la vertu à la génération montante. Souvenez-vous de l'histoire de ces jeunes hommes dans le livre de Mormon qui ont été un élément clé de la victoire des Néphites dans la longue guerre de 66 à 60 avant Jésus-Christ, les fils du peuple d'Ammon. Leur personnalité et leur discipline sont décrits en ces termes. C'est des hommes qui étaient fidèles en tout temps, dans tout ce qui leur était confié. Oui, c'était des hommes pleins de vérité et de sérieux, car on leur avait enseigné à garder les commandements de Dieu et à marcher en droiture devant lui. Or, ils n'avaient jamais combattu. Néanmoins, ils ne craignaient pas la mort, et ils pensaient plus à la liberté de leur père qu'à leur vie. Oui, ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Or, telle était la foi de ceux dont j'ai parlé. Ils sont jeunes, et leur esprit est ferme, et ils placent continuellement leur confiance en Dieu. Nous avons ici le modèle de ce qui doit se produire dans nos foyers et dans l'Église. Notre enseignement doit se baser sur notre propre foi, et consister d'abord et surtout à inculquer la foi en Dieu à la génération montante. Nous devons affirmer le besoin essentiel de respecter les commandements de Dieu et de marcher avec justice devant lui, avec sérieux, ou en d'autres termes, avec révérence. Chacun doit être convaincu que le service et le sacrifice pour le bien-être et le bonheur des autres sont de loin supérieurs à la mentalité qui consiste à vouloir donner la priorité absolue à son confort et à ses biens. Cela nécessite plus qu'une référence occasionnelle à l'un ou l'autre de principe de l'Évangile. Il doit y avoir un enseignement constant, principalement par l'exemple. Président Henry B. Eyring a formulé la vision que nous cherchons à atteindre. L'Évangile pur de Jésus-Christ doit pénétrer dans le cœur de nos enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. Il ne suffira pas qu'ils aient eu le témoignage spirituel de la vérité et qu'ils veuillent de bonnes choses plus tard. Il ne suffira pas qu'ils espèrent une purification et un renforcement futur. Notre but doit être qu'ils soient réellement convertis à l'Évangile rétabli de Jésus-Christ pendant qu'ils sont avec nous. Alors, ils ont acquis de la force du fait de ce qu'ils sont, pas seulement de ce qu'ils savent. Ils deviendront disciples du Christ. J'ai entendu quelques parents déclarer qu'ils ne veulent pas imposer l'Évangile à leurs enfants, mais qu'ils veulent qu'ils décident par eux-mêmes de ce qu'ils vont croire et suivre. Ils pensent qu'ainsi, ils permettent à leurs enfants d'exercer leur libre arbitre. Mais ils oublient que l'utilisation intelligente du libre arbitre implique la connaissance de la vérité et des choses telles qu'elles sont réellement. Sans cela, on ne peut guère attendre des jeunes qu'ils comprennent et évaluent les choix qui se présentent à eux. Les parents doivent réfléchir à la façon dont l'adversaire aborde leurs enfants. Ses partisans et lui ne favorisent pas l'objectivité, mais sont au contraire des avocats multimédia énergiques du péché et de l'égoïsme. Chercher à rester neutre sur l'Évangile revient en fait à rejeter l'existence et l'autorité de Dieu. Nous devons plutôt le reconnaître lui et son omniscience, si nous voulons que nos enfants voient clairement les choix de la vie et soient capables de penser par eux-mêmes. Ils ne devraient pas avoir à apprendre par triste expérience que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Je vais vous donner un exemple personnel simple de ce que les parents peuvent faire. Quand j'avais 5 ou 6 ans, j'habitais en face d'une épicerie. Un jour, 2 garçons m'ont invité à y aller avec eux. Alors que nous étions là, convoitait les bonbons que l'on vendait, le plus âgé a saisi une barre chocolatée et l'a glissée dans sa poche. Il a insisté pour que l'autre garçon et moi fassions pareil, et après quelques hésitations, nous l'avons fait. Puis nous sommes sortis rapidement du magasin, et nous avons couru dans des directions différentes. À la maison, je me suis caché, j'ai déchiré l'emballage. Ma mère m'a trouvé, avec comme preuve le chocolat étalé sur mon visage, et m'a ramené à l'épicerie. En traversant la rue, j'étais persuadé qu'on allait m'emprisonner à vie. Au milieu des sanglots et des larmes, j'ai demandé pardon au propriétaire et je lui ai payé la barre chocolatée avec les 10 centimes que ma mère m'avait prêtée, que j'ai dû mériter plus tard. L'amour et la discipline de ma mère ont mis une fin rapide et abrupte à ma carrière criminelle. Nous avons tous des tentations. Le Seigneur en a eu aussi, mais il n'y prêta pas attention. De la même façon, nous ne devons pas céder simplement parce qu'une tentation se présente. Nous pouvons en avoir envie, mais nous ne devons pas le faire. L'ami incrédule d'une jeune adulte engagée à suivre la loi de chasteté lui a demandé comment il était possible qu'elle n'ait encore jamais couché avec quelqu'un. « Tu n'aurais pas envie ?» lui a-t-elle demandé. Jeune fille a réfléchi. La question m'a intrigué, parce qu'elle était complètement hors sujet. Le simple fait d'avoir envie n'est certainement pas le guide qui convient pour une conduite morale. Dans certains cas, la tentation peut avoir le poids supplémentaire d'une dépendance potentielle ou acquise. Je suis reconnaissant que l'Église puisse fournir des aides thérapeutiques diverses à un nombre croissant de personnes pour les aider à éviter les dépendances ou à s'en sortir. Cependant, bien que la thérapie puisse soutenir la volonté de quelqu'un, elle ne peut pas s'y substituer. Encore et toujours, il faut faire preuve de discipline, d'une discipline morale basée sur la foi en Dieu, le Père, et en son Fils, et en ce qu'ils peuvent faire de nous par la grâce expiatoire de Jésus-Christ. Pour employer les termes de Pierre, le Seigneur sait délivrer des tentations les hommes pieux. Nous ne pouvons pas présumer que l'avenir ressemblera au passé, que les choses et les systèmes sur lesquels nous avons compté économiquement, politiquement et socialement resteront tels qu'ils ont été. Peut-être que notre discipline morale, si nous la cultivons, aura une bonne influence et en inspirera d'autres à suivre le même chemin. Nous pourrons ainsi avoir un impact sur les tendances et les événements futurs. Au minimum, la discipline morale sera d'une aide immense lorsque nous aurons à affronter les tensions et les problèmes qui pourront se produire dans une société en décomposition. Nous avons entendu des messages profonds et inspirants pendant cette conférence, et dans un moment, le président Monson la conclura par des conseils. Je crois que pendant que nous réfléchissons dans la prière à ce que nous avons appris et réappris, l'Esprit apportera plus de lumière sur ce qui s'applique tout particulièrement à nous personnellement. Nous serons renforcés dans la discipline morale nécessaire pour marcher en justice devant le Seigneur et être un avec le Père et lui, avec mes frères et avec vous, mes frères et sœurs. Je témoigne que Dieu est notre Père et que son Fils, Jésus, est notre Rédempteur. Leur loi est immuable, leur vérité est éternelle et leur amour infini. Au nom de Jésus-Christ, amen.
As we conclude the conference,
en terminant cette conférence, nous remercions le chœur du Tabernacle, le chœur des pieux de Bountiful et de Farmington, en Utah, et le chœur de la prêtrise d'Aaron, des pieux de West Jordan, Utah, ainsi que leur directeur et organiste, de la belle musique inspirante. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à ces sessions. Mes frères et sœurs, le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur chantera « Quand vient l'heure de se quitter ». Après le cantique, W. Douglas Chemouet, qui a été relevé hier de son appel au sein des 70, fera la prière de clôture. Cette conférence sera alors ajournée, Président Monson.
My heart is full.
Mon cœur déborde à la fin de cette conférence. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements et été spirituellement édifiés par les messages que nous avons entendus et par les témoignages qui ont été rendus. Nous exprimons nos remerciements à tous les participants de la conférence, y compris les frères qui ont fait les prières. Encore une fois, la musique a été merveilleuse. J'exprime ma reconnaissance personnelle envers les personnes disposées à nous faire profiter de leurs talents. Elles nous ont touchés et inspirés. La belle musique qu'elles interprètent améliore et enrichissent chaque session de la conférence. Nous vous rappelons que les messages que nous avons entendus lors de cette conférence seront publiés dans les numéros de novembre de l'Ensign et du Liaona. Lorsque vous les lirez et les étudierez, vous serez encore davantage édifiés et inspirés. Puissions-nous intégrer dans notre vie quotidienne les vérités qui s'y trouvent. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à ces frères qui ont été relevés lors de cette conférence. Ils ont bien rempli leur appel et ont apporté de grandes contributions à l'œuvre du Seigneur. Leur dévouement a été total. Nous les remercions du fond du cœur. Nous vivons à une époque dans laquelle le monde s'est éloigné de la sécurité que l'on trouve dans l'obéissance aux commandements. C'est une époque de permissivité où la société méprise et enfreint les lois de Dieu systématiquement et de manière générale. Nous nous retrouvons souvent à nager à contre-courant et parfois le courant semble avoir la force de nous emporter. Cela me rappelle les paroles du Seigneur que l'on trouve dans le livre d'Éther, dans le livre de Mormon. Le Seigneur a dit, « Vous ne pouvez pas traverser ce grand abîme sans que je ne vous prépare contre les vagues de la mer et les vents qui sont sortis et les flots qui viendront. » Mes frères et sœurs, il nous a préparés. Si nous écoutons ses paroles, et si nous respectons les commandements, nous survivrons à cette époque de permissivité et de méchanceté, époque qui peut être comparée aux vagues, aux vents et aux flots destructeurs. Il se soucie toujours de nous. Il nous aime et il nous bénira si nous faisons ce qui est juste. Comme nous sommes reconnaissants, que les cieux soient ouverts, que l'Évangile de Jésus-Christ ait été rétabli et que l'Église soit fondée sur le roc de la Révélation. Nous sommes un peuple béni avec des apôtres et des prophètes sur la terre aujourd'hui. Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir chacun d'entre vous. Puissiez-vous rentrer chez vous en toute sécurité. En méditant sur les messages que vous avez entendus lors de cette conférence, puissiez-vous dire avec le peuple du roi Benjamin qui s'est écrié d'une seule voix. Nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Et aussi, nous savons qu'elles sont sûres et vraies à cause de l'Esprit du Seigneur omnipotent qui a produit un grand changement en nous. De sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant quitte cette conférence meilleure qu'il l'était il y a 2 jours. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je prie pour vous. Je vous demande de nouveau de vous souvenir de moi et de toutes les autorités générales dans vos prières. Nous nous unissons à vous pour aller de l'avant dans cette œuvre merveilleuse. Je vous témoigne que nous œuvrons tous ensemble et que chaque homme, chaque femme et chaque enfant ont un rôle à jouer. Puisse Dieu nous donner la force, la capacité et la détermination de jouer notre rôle correctement. Je vous témoigne que cette œuvre est vraie, que notre Sauveur vit et qu'il guide et dirige son Église ici-bas. Je vous témoigne que Dieu, notre Père éternel, vit et qu'il nous aime. Il est véritablement notre Père et il est une personne réelle. Que Dieu vous bénisse. Que la paix qu'il a promise soit avec vous, maintenant et à jamais. J'aime le chant qui a été fait au début de cette conférence, « Ô divin Rédempteur ». En fait, c'est mon cantique favori, préféré, car il est vrai, il est vraiment le Rédempteur divin. Je vous fais mes adieux jusqu'à ce que nous retrouvions dans 6 mois. Et je le fais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur et notre avocat auprès du Père. Dans son saint nom, amen.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste, à la conclusion de cette conférence de ton Église, nous t'exprimons notre reconnaissance pour les messages inspirés et la merveilleuse musique qui a touché nos cœurs et nos esprits. Nous te remercions du sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ pour le rétablissement de l'Évangile, pour le prophète Joseph Smith et pour notre prophète aujourd'hui, Thomas S. Monson. Bénis-le, s'il te plaît, ainsi que ses conseillers et les 12, pour qu'ils aient la santé et la sécurité, tandis qu'ils dirigent ton Église ici sur la terre. Bénis-nous maintenant, tandis que nous rentrons dans nos foyers, avec la paix, l'amour, les uns pour les autres, et l'amour pour toi, et avec une détermination renouvelée, et un désir accru de te servir et d'obéir à tes commandements. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous
venez d'assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.